Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une conversation à mi-chemin entre le professionnel, comprendre l'évolution d'un secteur, et le personnel, parce que face à cette évolution de secteur, c'est aussi l'humain qui s'adapte. Et c'est ma femme d'aujourd'hui qui nous raconte son histoire en détail avec toutes ces mutations. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Jehan Majouche, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Jehan?
Alhamdulillah, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Ben écoute, le plaisir est vraiment partagé. Toi, tu es dans les RH, tu es DRH et tu es exactement dans le secteur de l'automobile.
Oui, exactement. Je suis dans le domaine de contrôle et d'expertise, que ce soit des véhicules, mais aussi des constructions.
Ok, alors... pour arriver à ce poste de DRH, pour arriver justement à ce poste-là, à être la country manager d'un groupe qui est très important international, c'est jamais un long fleuve tranquille. Je sais que beaucoup de jeunes femmes ont envie et rêvent justement d'avoir ce genre de position, mais ça coûte quoi à une femme justement de devenir DRH ?
Alors, justement, pour arriver à ce poste-là, c'est pas facile, c'est pas donné, c'est pas quelque chose qu'on peut juste écrire sur un beau papier et dire que voilà, demain, dans 10 ans, dans 5 ans, je peux arriver à cette position.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça peut coûter des fois? Ben, c'est beaucoup d'investissement, avoir beaucoup d'ambition, mais c'est aussi consacrer du temps, faire des fois des sacrifices, des choix difficiles, mais surtout beaucoup de courage parce qu'il faut oser, il faut explorer, il faut tester, il faut travailler des fois dur. Mais voilà, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas si on s'investit, tout simplement.
Alors, j'ai beaucoup aimé quand tu dis « il ne suffit pas de l'écrire sur un papier », ça m'a fait penser, en fait, de se dire « dans 10 ans, je serai DRH ». Ça m'a fait penser à tout ce qu'on parle, à tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la manifestation, en fait. Il suffit de le penser, de l'écrire pour que ça vienne. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Non, pas du tout, pas du tout.
Alors, on va y aller petit à petit. Bac, est-ce que... Dès le départ, c'était des études orientées RH.
Oui. Alors, en fait, moi, depuis lycée, bon, bien sûr, grâce à l'aide de mon père, moi, j'étais au début un peu perdue. Quand je voulais choisir une filière, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais choisir. J'étais un peu perdue que je choisis une filière technique ou autre. Et mon père, il m'a recommandé, il m'a dit, écoute, pour faire simple, tu fais la gestion. C'est un domaine qui peut t'offrir plusieurs opportunités d'évolution. Et bon, je l'ai suivi. Après, moi, j'ai choisi une filière de gestion depuis le lycée, après mes études supérieures et tout. Et en fait, quand j'ai passé mon premier stage, c'était dans une direction ressources humaines, dans un grand organisme semi-public. Et voilà, donc j'ai vu comment ça se passe, etc. J'ai beaucoup apprécié le domaine. Et donc, je me suis décidée. J'ai dit tout de suite, voilà, moi, je vais continuer dans la gestion RH. De toute façon, je sentais que c'était mon domaine. J'aimais beaucoup le contact avec les personnes, etc. Et donc, je me suis dit, voilà, ça va être ma vocation, c'est de continuer dans la gestion RH. Et après, j'ai fait mes études, j'ai fait mon master en gestion RH. Et... voilà, je ne vais pas dire que par hasard, mais bon, la première opportunité que j'ai eue, opportunité professionnelle, c'était en tant que dans la gestion en général, mais il y avait une casquette RH. Voilà, et donc j'ai continué à grimper les échelons dans le même domaine, et ça fait maintenant 18 ans que j'exerce en tant que RH, et je n'ai pas pensé donc à faire autre chose que le management des ressources humaines.
Alors, il y a 18 ans, le management des ressources humaines était une chose. 18 ans après, il a bien évolué. Pendant que le métier évoluait, comment toi aussi tu t'es adapté et évolué, parce qu'en fait, ce sont deux choses qui se sont faites en parallèle, qui font qu'ensuite, tu avais justement la posture, l'expertise pour devenir DRH. Voilà, comment justement rester à l'écoute des mutations, du changement du domaine d'activité et pour accompagner également soi-même son plan de carrière?
Oui, certainement. Alors là, quand je me rappelle de ma première expérience, bon, je peux parler des 5 ou des 6 premières années, j'étais dans le secteur d'IT. C'est vrai que moi, j'avais la chance de commencer ma carrière dans un secteur de l'informatique qui est toujours en pleine évolution, en plein développement. Il suit les actualités, les trends internationales et tout. Donc, ce qui fait que j'étais dans une optique RH évolutive, ce qui m'a permis d'évoluer aussi. Alors, au début, la fonction RH se limitait à la gestion de la paie, tout ce qui est administratif, médecine, travail, accident. C'était vraiment un travail purement administratif. Avec un petit peu, quand on parle du développement, c'est la formation. C'est la gestion du recrutement. C'est ça ce qu'on qualifiait être dans le développement RH. C'était vraiment ça, avec un petit peu d'évaluation annuelle, gestion des performances. Quand on a un départ, on fait quelques petits événements et tout. Et pour nous, c'était ça la gestion RH. Mmh. Après, les choses ont complètement changé. Donc là, si je parle à cette heure-ci, c'est une transformation complète. Vraiment, ça bien sûr. Nous continuons à le faire. Ça reste la base de notre métier. On ne peut pas être RH si on ne gère pas la situation rémunération, etc., des collaborateurs. Mais ça, je ne peux pas dire qu'on ne le reconnaît pas, mais c'est quelque chose, on ne rend plus compte sur ça. Là, c'est vraiment le basique. Maintenant, on parle, le manager RH ou le directeur RH ou l'équipe RH, elle travaille main dans la main avec le comité de direction. C'est le premier conseiller du top management pour donc la gestion de la structure. Il y a un impact direct sur le business, sur la productivité des collaborateurs. Il y a aussi, on parle beaucoup des plans de rétention, nous avons aussi des conflits de génération, nous avons une transformation digitale, donc un RH, il est obligé aujourd'hui de restructurer sa fonction, de sa direction, en mettant en place des projets permettant de réduire un petit peu la bande passante, parce que oui, c'est vrai, le monde RH a évolué, mais on n'a pas forcément les moyens de recruter beaucoup plus de personnes. Donc avec les moyens qu'on a, il faudra se retransformer, et donc il faut être évolutif et travailler sur la transformation digitale, l'automatisation, l'informatisation donc des processus, etc. Et il y a un point très important, et depuis Covid maintenant, la gestion sociale a été complètement changée. Et maintenant, quand on reçoit des candidats, la première question qui se pose, c'est sur la culture de l'entreprise, sur ses valeurs, sur le bien-être. Est-ce que la personne aura un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée? Est-ce que l'entreprise offre du télétravail? Est-ce que l'entreprise offre la possibilité d'avoir des moments de déconnexion? Donc c'est vraiment ça. Donc là, on passe d'une fonction administrative à une fonction beaucoup plus large qui a un impact direct sur le business, qui a un impact sur la vie du collaborateur, sur la culture de l'entreprise, sur la relation sociale, sur la digitalisation et aussi sur comment gérer la carrière du collaborateur et lui offrir des perspectives d'évolution et de développement. Donc, quand un collaborateur décide de rejoindre une société, c'est vraiment ça. Ce n'est plus le salaire, oui, le salaire c'est très important, les conditions pécuniaires c'est très important, mais si on ne lui offre pas tout ce package, surtout quand on parle de grandes structures internationales, etc. Même les petites boîtes aujourd'hui investissent dans ce domaine-là. Donc, si on n'est pas capable de maintenir, d'innover, de proposer tout ce package, un collaborateur ne veut pas rester. Et aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est que les candidats, ils négocient, ils ont le courage de demander. Il y a quelques années, non. Il suffit juste de donner à un collaborateur un contrat pour qu'il soit très content, maintenant non. Il faut donner le contrat et le package. Et si on n'est pas capable de s'adapter, je suis sûre qu'on va mettre vraiment en difficulté le business de l'entreprise et on aura un turnover élevé et on aura beaucoup de difficultés à retenir nos les collaborateurs. Talents.
Alors justement, avec tous ces changements, il y a aussi l'humain, il y a aussi toi, ok. Justement, comment tu t'es adapté à tous ces changements, puisque en fait tu les as vécus en temps réel, en tant que femme, en tant que professionnelle DRH, pour pouvoir ensuite t'adapter au public que tu as en face de toi et aux mutations. Comment toi-même tu as pu gérer ton changement et le changement autour de toi?
Oui. Alors, bien sûr, la première des choses, c'est déjà la mise à niveau des connaissances. Donc, il faut se préparer techniquement à tous ces changements. Il faut, voilà, il faut lire, il faut participer à des séminaires, il faut discuter avec des confrères, il faut discuter avec des professionnels. Il faut déjà avoir suffisamment de connaissances pour comprendre un petit peu tout ce qui est technique, tout ce qui est, voilà, avoir une idée théorique sur sur ces changements. Ça, de un. De deux, c'est l'expérience. Et d'une année à une année, on est confronté à des situations. C'est clair qu'on peut faire une erreur, qu'on peut perdre un candidat, par exemple, aujourd'hui, parce qu'on a mal géré la situation. Mais je suis sûre que si on tire des leçons, c'est, on corrige. Et donc aussi, c'est les stratégies. Donc, quand nous faisons partie d'une entreprise, on fait partie d'un comité de direction, il y a des débats, il y a des stratégies, il y a des plans d'action. Et c'est comme ça que la personne est. Que moi personnellement j'ai évolué à travers la connaissance et à travers l'échange et à travers c'est pour ça qu'il faut être toujours en veille. Donc on peut pas dire que je suis DRH et je suis renfermée dans mon bureau. Ça marchera pas.
Ça marche plus comme ça.
Il faut avoir des contacts, il faut discuter avec les gens, il faut lire, il faut voir, il faut voir comment ça se passe dans d'autres entreprises. Surtout que quand on est une entreprise à l'international, ben c'est clair que cette entreprise a des cellules, fait partie, elle fait appel à des professionnels. Et voilà, donc c'est à travers vraiment l'échange, la construction, la correction, la prévention, mais aussi donc mettre en place des plans d'action préventifs et correctifs qui nous permettent d'évoluer aussi avec l'évolution technologique et humaine.
Alors, c'est vrai qu'on est en train de faire un épisode à mi-chemin entre l'humain et le professionnel, mais la thématique est extrêmement importante et on profite justement de ta présence avec nous. Je suis curieuse par rapport à une question. C'est que toi, tu es dans le domaine de l'automobile et donc, en fait, en face de toi, tu as des techniciens, tu as des cadres, etc., mais tu as aussi des techniciens. Et par rapport à cette gestion justement des ressources, par rapport à ce besoin de package, de donner ce package qui ne soit pas uniquement un contrat, mais tout ce qui va avec et tout ce que tu as cité tout à l'heure, est-ce que ça concerne tous les profils?
Oui, ça concerne tous les profils, encore plus les personnes qui sont confrontées aux clients, qui sont confrontées à la résolution de problèmes techniques au quotidien. Et nous avons beaucoup plus de demandes de cette catégorie de personnes-là pour pouvoir sortir de leur quotidien, de pouvoir sortir de la routine, de pouvoir sortir des difficultés stressantes, etc. Et donc, exactement, la première population concernée. Et surtout que c'est la population qui concerne la grande majorité de l'effectif de la société. Et on ne peut pas la négliger. C'est le cœur de notre entreprise. Ce sont les personnes qui génèrent les résultats. Il faudra penser à eux dans un premier temps. Quoique nous, dans notre logique, c'est vraiment on néglige personne. Il faudra proposer des actions adaptées à toutes les catégories de la société. Mais la production reste la grande partie de l'entreprise et il faudra bien sûr penser à eux et essayer de les impliquer. Quand on organise par exemple un événement, on les appelle, on essaye de les encourager pour être avec nous. Voilà, des fois on n'arrive pas à avoir 100%, 80% des collaborateurs, mais au moins on arrive à avoir une population représentative et ça nous fait du bien et ça leur fait du bien aussi. Et quand on voit leur participation, quand on fait des manifestations, des événements et tout. Et quand on voit qu'on a des personnes de la production qui ont consacré du temps après une journée de travail difficile, ça nous fait vraiment plaisir, mon équipe et moi, de les voir avec nous, nous soutenir et nous encourager à proposer d'autres choses.
Ok. Alors, on revient à vous, on revient à toi justement. C'est 18 ans, c'est 18 ans de carrière dans les RH, c'est 18 ans de changement aussi, d'adaptation. Ils t'ont appris quoi sur la femme que tu es? Ils ont façonné comment aussi la femme dans le privé, pas uniquement dans le professionnel?
Oui, bon, alors, par rapport à moi, bon, c'est clair que moi, je fais toujours un retour en arrière. Quand je me rappelle de Shihan qui a commencé à l'âge de 25 ans, j'ai eu déjà une première opportunité d'être responsable RH dans une industrie aéronautique pendant 8 ans. C'est clair que ça a eu un impact sur moi-même. et sur ma vie privée. Donc, sur moi-même, je pense que j'ai mûri. J'ai développé beaucoup de capacités d'affirmation, parce que pour être dans une unité industrielle avec 400 collaborateurs, rentrer par la porte et devoir saluer tout le monde, on ne peut pas se cacher. Donc là, c'est vraiment une situation où il faut assumer. On ne peut pas faire un retour en arrière et il faudra assumer la conséquence de ces décisions. Donc ça, passer une journée dans cet environnement, revenir chez soi, des fois, c'est clair que ça peut être épuisant, fatigant, on a envie de plus rien faire, passer un week-end, par exemple, enfermé et tout. Mais sur le plan personnel, ça permet d'évoluer personnellement, d'être affirmé, de développer sa confiance en soi et de pouvoir aussi prendre des décisions qui sont tranchantes dans sa vie personnelle.
Mais alors,
des fois, ça peut être fatigué.
Une petite question par rapport à ça, une petite nuance. Ma question, elle visait en fait cet aspect-là. Est-ce que, de par le changement constant que tu as vécu dans ta carrière professionnelle, à t'adapter aussi aux mutations justement professionnelles, est-ce que ça t'a aussi fait intégrer en toi la notion que vraiment rien n'est acquis et que le changement est constant, même dans la vie personnelle?
Oui, ça c'est clair. Ça, quelle que soit la carrière d'une personne, aujourd'hui on sait très bien que dans la vie rien n'est acquis. Il y a beaucoup de changements et que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, il y a des situations qui peuvent bouleverser notre vie, que ce soit positivement ou négativement. Oui, bien sûr, ça c'est clair. Mais moi, ma vision, c'est franchement, tous les investissements que je fais, bon, c'est vrai que nous travaillons avec un objectif principal, c'est de sécuriser notre avenir, avoir un avenir meilleur et tout. Mais franchement, moi, je ne me préoccupe pas par rapport à ça. J'essaie vraiment de profiter d'aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui. J'essaie, malgré tout, malgré mes responsabilités, malgré toutes les choses que je dois produire ou gérer au quotidien, de garder un petit peu de temps pour moi, pour ma famille, pour ma petite famille, pour ma grande famille, essayer d'en profiter et essayer de créer un certain équilibre. Parce que moi, je ne peux pas être DRH et travailler sur des sujets de bien-être et inviter les collaborateurs de préserver leur santé mentale et tout. Et moi, je viens tous les jours avec des problèmes, avec un déséquilibre personnel. Ça marche pas.
C'est vrai.
Donc, il faudra d'abord travailler sur soi. Et on ne peut pas être un bon DRH si on a beaucoup de problèmes, si on a beaucoup de difficultés personnelles. Ça, moi, je pense que ce n'est pas possible. Moi, je connais plusieurs personnes RH qui ont passé par des parcours personnels difficiles et ça se traduit directement sur leur relation avec les personnes. Donc déjà, il faudra en fait tester tout ce qu'on propose aux collaborateurs, il faut le tester sur soi pour pouvoir en fait le transmettre par l'exemple. Et c'est ça. Bon, bien sûr, je ne dis pas que quand on fait nos calculs et quand on, tout ce que je dis, bien sûr, on passe des fois par des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles. Mais d'une manière générale, c'est ça. Pour moi, il faut se focaliser sur ce qu'on vit. Il faut apprendre de ce qu'on vit au quotidien, des opportunités qui nous sont offertes, des difficultés, des problèmes, des réussites. Et tout ce qui va venir après, je suis sûre que ça va continuer à avancer positivement si la base, elle est bien fondée.
Jehane Majouche, justement, étant donné qu'aujourd'hui, les RH bougent tellement vite, on ne peut plus parler de cap de 5 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un cap de 2 ans. Maximum. D'ailleurs, c'est ce qui est aussi est apparu dans un dernier rapport absolument par rapport au changement des besoins en matière de compétences professionnelles, etc. Le nom m'échappe, c'est pas Davos, c'est je crois que c'est le Forum économique mondial. Si ma mémoire est bonne. Et donc à ce moment-là, toi aussi, non seulement par rapport aux équipes et à ta mission professionnelle, mais aussi par rapport à toi. Comment tu te vois dans 2 ans? Et où est-ce que tu te vois dans 2 ans?
Alors, en fait, me voir dans 2 ans, franchement, moi, si je reviens sur ma carrière, je n'ai jamais fixé de date où dans 5 ans, je dois être responsable RH. Dans 5 ans après, je dois être DRH. Ça, c'est venu vraiment naturellement. Je ne me fixe pas comme objectif d'évoluer vers, dans 2 ans, je dois avoir cette position. Mais par contre, ce que je sais, c'est que RH est un domaine qui est très large. Bon, bon, déjà, je souhaite continuer dans ma fonction de RH. Donc, je n'ai pas de perspective ou de vision de faire autre chose. Bien sûr, quand on dit RH, dedans, on peut faire plusieurs domaines. Il y a plusieurs casquettes. RH avec un impact dans la gestion, RH avec un impact sur l'accompagnement, RH avec un impact sur la communication, marketing, impact sur la gestion de la rémunération et rétention. Voilà, donc il y a plusieurs choses. Donc moi, je souhaite continuer bien sûr à élargir mon scope, de toucher davantage à d'autres sujets, sachant aussi que quand on est RH aujourd'hui, nous sommes membres du comité de direction, ce qui fait qu'on ne travaille pas que sur la partie gestion RH, mais on participe à la décision quand il y a des projets de développement. Voilà, donc je souhaite vraiment continuer dans ce rôle-là et continuer à évoluer pour accompagner le top management dans la mise en place, par exemple, de projets stratégiques, la création de nouveaux métiers, par exemple, au Maroc, travailler proposer par exemple aux collaborateurs à des plans de montée en compétences, de formation, de coaching qui vont leur aider au quotidien. Mais voilà, c'est une évolution en fait beaucoup plus transversale que hiérarchique. Mmh.
Bien, Jehane Majouche, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Yasmine, pour ton émission et surtout pour l'occasion que tu offres aux femmes de pouvoir surtout se présenter, faire découvrir leurs défis, mais surtout influencer d'autres femmes qui ont peut-être quelques difficultés passagères, qui ont peut-être peur de relever un défi, peur de changer, peur de faire autre chose. Il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut vraiment claquer la porte, essayer de s'aventurer et de travailler. Il n'y a pas de raison, parce que de toute façon, même si il y a un échec, c'est clair qu'à travers cet échec, on pourra apprendre beaucoup plus.
Absolument.
Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue.
Non, pas du tout. Merci beaucoup. Absolument. Et c'est surtout un apprentissage et pas un échec, comme tu l'as très bien dit.
Exactement. Merci beaucoup, Yasmine.
Merci infiniment. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.